présenté par René Capita.
Procès Serge Maïs et les ONG de défense des droits humains regrettent de voir l'instruction clôturée alors que des interrogations sur les auteurs, les commanditaires et le mobile du crime de Serge Maïs demeurent encore en suspens. Manifestation hier jeudi des dockers du port de Matadi. Ces journaliers exigent le paiement de leur salaire du mois de juillet avant la reprise du travail. Enfin, 290 femmes sont mortes à l'accouchement dans la ville de Bandundu au cours du dernier trimestre. Constat du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal à Bukavu. On signale qu'aucun naufrage n'a eu lieu sur le lac Kivu, contrairement aux articles parus dernièrement dans certains journaux de Kinshasa. La MONUC dément ces rumeurs en précisant qu'un incident mineur sans conséquence s'est produit sur le lac Kivu au début de cette semaine. Les explications avec Jacqueline Chénard, porte-parole de la MONUC Bukavu.
En fait, c'est dans la presse venue de Kinshasa que nous avons pris connaissance d'un article et de rumeurs qui en découlent. En fait, cet article qui est sorti dans la presse hier ou avant-hier se réfère à un naufrage qui a eu lieu il y a un mois exactement, où il y avait eu beaucoup de morts, de disparus, de blessés. Depuis, à ma connaissance, il n'y a pas eu de naufrage avec perte de vies humaines et perte de biens. Il y a eu toutefois un petit incident il y a 3 jours, près de Bukavu. Il y avait un bateau qui revenait avec quelques familles. Ils ont eu une panne de carburant. Ils ont appelé à la rescousse et la MONUC a été prévenue et s'est portée pour les assister. Et là, ils sont tous rentrés au port sains et saufs. Il n'y a eu ni blessés, ni morts, ni perte de biens, quoi que ce soit.
Reprise à Bukavu du procès sur l'assassinat de notre confrère Serge Maïchi. Ce matin a commencé la plaidoirie de la partie civile. Dans son introduction sur l'exposé des faits, la partie civile s'est déclarée choquée de voir dans les box des accusés les deux amis du défunt et témoins directs du meurtre. Les ONG de défense des droits humains ont déposé un mémorandum au président du tribunal de garnison. Elles regrettent de voir l'instruction clôturée alors que des interrogations sur les auteurs, les commanditaires et les mobiles du crime du Serge Maïchi demeure encore en suspens. Toujours en rapport avec le procès Serge Maïchi, sachez que l'Union européenne a invité les autorités congolaises à faire toute la lumière sur l'assassinat de Serge Maïchi et Pascal Kabungulu. Dans une déclaration officielle, la présidence de l'Union européenne a insisté sur l'importance de lutter contre l'impunité. Déclaration qu'un groupe des ONG a remis ce jeudi au président du tribunal de Bukavu qui instruit le procès sur l'assassinat de Serge Maïchi. Pascal Bousten, membre de l'Organisation internationale des droits de l'homme Protection Line, souligne l'importance de cette déclaration au micro des Dieudonné Bagualwa.
Cette déclaration est quand même très importante politiquement puisqu'il s'agit d'une déclaration conjointe de 27 États membres de l'Union européenne concernant la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo et en particulier le danger que représentent pour cette lutte contre l'impunité les assassinats de défenseurs des droits humains et de journalistes. Évidemment, l'exemple du procès de Pascal Kabungulu n'est pas un très bon exemple. Donc, je pense que tout le monde et la population de Bukavu, je pense, est dans la même optique, attend de voir vraiment ici quelque chose, une procédure différente et une procédure qui va véritablement aboutir et aboutir dans des conditions de respect d'un procès équitable.
Nord Kivu, un journaliste et photographe et membre de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC Nord Kivu a été abattu par balle hier soir au quartier Ndosho dans la ville de Goma. Selon la famille de la victime, le photographe rentrait seul chez lui quand un homme en arme lui a tiré une balle dans la tête non loin de sa maison. Bernard Nyangi revient sur les circonstances de cet assassinat.
L'événement s'est passé vers 19h30 hier soir au quartier Ndosho. Patrick Kikuku Ilungula, photographe et reporter, collaborateur du journal Le Peuple Souverain et d'autres presses écrites de la ville, venait d'un reportage à la foire touristique de Goma quand il s'est fait attaquer. Les habitants du quartier ont juste entendu le bruit des tirs. Ils sont sortis et ont trouvé le corps sans vie. Le bandit était déjà parti. Selon les membres de sa famille, après lui avoir tiré une balle dans la tête, le meurtrier n'a apporté que son kit d'appareil photo. Il n'a pas touché à l'argent ni au téléphone. Le bourgmestre de la commune de Karisimbi affirme qu'une enquête a été ouverte. Selon lui, il est trop tôt de faire des hypothèses sur ce meurtre. Mais pour les membres de l'UNPC Nord Kivu, le fait que son assaillant n'ait pris que le kit d'appareil photo est une preuve pouvant laisser croire que la victime aurait été ciblée en tant que journaliste. Patrick Kikuku Ilungula avait un peu plus de 30 ans. Il laisse une veuve et 8 enfants. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Bakongo, les dockers du port de Matadi ont manifesté hier jeudi dans la ville portuaire pour réclamer le retard observé dans le paiement de leur salaire du mois de juillet 2007. Ces travailleurs journaliers exigent le paiement de leur dû avant la reprise du travail. Dani Kindanzita retrace le parcours de la manifestation et les clauses de la rencontre que ces dockers ont eues avec l'autorité provinciale du Bakongo.
Pour manifester leur mécontentement, ces journaliers œuvrant au port international de Matadi ont marché de la place Ami-Congo jusqu'au gouvernorat du Bas-Congo. Sur place, il y a eu une rencontre entre le gouverneur de la province, le représentant des dockers, le responsable de l'ONATRA, le maire de la ville et l'inspecteur provincial du travail. Le gouverneur Simon Mbaki-Batia a demandé au responsable de l'ONATRA de décanter très vite cette situation en vue de maintenir un climat social serein au sein de son entreprise. Pour sa part, le directeur Simba Medar Kiasim, l'intérim du directeur de port maritime, a indiqué que le retard constaté dans le paiement des dockers est dû aux difficultés de trésorerie que connaît son office et a promis de régulariser la situation dès ce samedi. Signalons que ces dockers qui sont des journaliers n'ont signé aucun acte d'engagement au sein de l'ONATRA. Matadi, Dani Kindanzita, Radio Okapi.
Dans la province de Katanga, la police nationale de Lubumbashi a saisi ce jeudi 4 tonnes de câbles électriques volés. Ces fils de cuivre découpés en petits morceaux étaient cachés dans des bidons d'huile de 20 litres qui transportaient des véhicules consulaires. Cette saisie est intervenue après plusieurs jours d'enquête de la police. Le point avec Paul Kaboba.
Salomon Idi, conseiller politique du gouverneur de province, indique que l'attention des policiers était attirée par la fréquence inhabituelle effectuée entre la Zambie et le Lubumbashi par des véhicules du corps consulaire congolais en poste en Douala. Ces véhicules pouvaient faire jusqu'à 4 rotations par jour. Fait étrange, il arrivait que ces camionnettes soient remplies de bidons d'huile en répartant vers la Zambie. Or, chacun sait que la République démocratique du Congo n'exporte pas de l'huile, c'est plutôt le contraire. La police a donc mis en place des équipes de surveillance. L'une de ces équipes, placée près de la résidence d'un diplomate congolais à Lubumbashi, a vu les manœuvres de chargement d'une cargaison. Les contrebandiers ont été pris la main dans le sac ou dans le bidon, si vous voulez. Salomon Idi, conseil politique du gouverneur de province, indique que la police congolaise enquête sur d'autres trafics louches dont se serait rendu coupable ce réseau de diplomates congolais. Lubumbashi, Paul Kaboba, Radio Okapi.
Kananga, après 2 ans dans l'obscurité, la ville a retrouvé l'éclairage public. Ce retour de l'électricité depuis maintenant 3 jours suscite des sentiments mitigés dans les chefs des habitants de Kananga. Pendant que les uns se réjouissent, les autres redoutent déjà que ce retour du courant électrique ne dure que l'espace d'un matin. Du côté de la SNEL, aucune information n'a pu être donnée sur la durée de cette fourniture d'énergie. Pierrot et Lamenji pour les explications.
De Kananga 2 à Katoka, en passant par le centre-ville, toutes les artères principales sont éclairées et ceci de 20h à l'aube. Plusieurs personnes circulent jusque tard. Des boutiques et kiosques restent ouverts et reçoivent des clients dont l'unique sujet de conversation reste le retour brusque de l'éclairage public. Dans les différents quartiers, le jeune s'évertue à jouer et causer sans s'inquiéter. Chose impossible il y a seulement 3 jours et ceci depuis 15 mois. Mais plusieurs habitants de Kananga se demandent pour combien de temps ces rêves va-t-il continuer à être réalité.
Nous sommes très contents et nous avons depuis 3 jours les courants, 24h/24. Même pour vendre les histoires sur la route, nous vendons jusqu'à 24h/24. Nous demandons les courants ici qu'on a 24h/24 depuis 3 jours déjà. Ce n'est pas parce que le président est là. Quand il sera parti, il va rentrer encore en enfer comme auparavant. Alors nous demandons à ce que les courants ici soient vraiment permanents et un courant qui doit nous aider perpétuellement parce que nous avons vraiment besoin de ces courants.
Profitant de la marche du chef de l'État d'hier matin, le foule venue nombreuse pour l'applaudir ont fait remarquer à Joseph Kabila que l'éclairage public était lié à sa présence. Joseph Kabila a écouté les uns et les autres tout en leur garantissant qu'il était parfaitement au courant de la situation. Du côté de la SNEL Kananga, pas d'explication. Marcel Chamba, le directeur provincial, s'est dit indisponible et préoccupé par la préparation de la visite du chef de l'État dans ses installations. Le directeur provincial promet cependant d'avoir une réponse claire à la fin de la visite du chef de l'État. De Kananga, Piro Elameji, Radio Okapi.
Il est exactement 12h10 à Kinshasa, la même heure dans le Bandundu, où le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA s'inquiète du taux élevé des décès des femmes à l'accouchement dans la province de Bandundu. Pour les derniers semestres, cet organisme a enregistré 290 décès à l'accouchement dans les 34 structures sanitaires de la ville de Bandundu. Sur ce, les chefs d'antenne provinciale de l'UNFPA demandent aux institutions provinciales de mettre un accent particulier sur les mesures de lutte contre la mortalité à l'accouchement dans le prochain budget. Il est au micro de Basile Bakumbane.
Selon le rapport collecté par le Fonds des Nations Unies pour la population, antenne de Bandundu, c'est le district de Kwilu qui vient en tête avec 152 décès à l'accouchement dans l'espace de 6 mois. Parmi les raisons de ceci, on évoque le manque de médicaments et autres intrants nécessaires à la prise en charge, l'arrivée tardive au lieu d'accouchement suite à de longues distances de marche, le manque de suivi de l'évolution de la grossesse par des consultations prénatales, l'âge trop jeune ou trop avancé des femmes qui accouchent, mais aussi le manque de recyclage des accoucheuses pour ne citer que cela. Seules les zones de santé appuyées par le SNUAP font l'exception. C'est le cas de Kikwit qui fait 3 décès pour 935 accouchements. Pour le docteur Philemon Sikoulissimoa, chef d'antenne provinciale de SNUAP, il n'est pas tolérable que les femmes continuent à mourir quand elles veulent donner de nouvelles vies. Saisissant l'occasion de l'élaboration du prochain budget provincial, il interpelle les institutions provinciales à tenir compte de cet aspect jusque-là inquiétant. Son appel s'adresse également aux autres structures d'appui sanitaire pour aider la province de Bandundu à se doter de structures sanitaires viables. Signalons que le SNUAP appuie déjà 19 maternités dans 6 zones de santé de la province. De Bandunduville, Basile Bakumbane, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, 3 syndicats de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel conditionnent la reprise des enseignements à la rentrée scolaire de septembre. Dans un mémorandum déposé au ministère provincial de l'éducation, les signataires exigent entre autres la suppression des zones salariales sur l'ensemble du territoire national. Julien Niamouini pour les détails.
Les 3 syndicats signataires de ce mémorandum, à savoir le SINECAT, syndicat des enseignants catholiques, SIECO, syndicat des enseignants du Congo, et les COSICOP, syndicat des cadres ouvriers et paysans du Congo, exigent avant tout l'application sans faille du premier palier de l'accord d'Mboudi. Autre revendication consignée dans ce mémorandum, la suppression totale des zones salariales sur l'ensemble du pays. À noter également sur cette liste le respect strict de l'échéance du 20 de chaque mois pour le paiement des salaires et éviter la paie tardive et partielle des écoles du réseau catholique. Les syndicats demandent aussi la suppression de la prise en charge des enseignants par les parents, sauf le frais reconnu par le ministère de l'EPSP. Contactez Mme Njolo Okondi, ministre provinciale de l'éducation, conditions féminines et familles, déclare que certaines revendications syndicales trouveront des réponses dans le cadre de la décentralisation. D'autres, en revanche, exigent un plaidoyer auprès du gouvernement central. Julien Niamouini, Radio Okapi.
Enfin, province orientale, la société civile de l'Ituri demande aux députés provinciaux élus de leur district d'œuvrer pour la suspension des contrats miniers signés par le gouvernement de transition avec certaines entreprises minières opérant sur le terrain. Demande formulée hier jeudi à l'issue d'une session d'évaluation des activités des députés provinciaux de l'Ituri depuis le début de leur mandat. Les forces vives de l'Ituri exigent que les contrats détenus par ces entreprises soient également soumis au processus de revisitation en cours initié par le gouvernement. Des détails avec Suzanne Nzobo.
Parmi les entreprises minières concernées par cette recommandation de la société civile, il y a Ashanti, Anglo-Gold, Kilo, Sangeta, Comet et Mon Africa. Toutes ces entreprises effectuent des travaux d'exploitation au sein des concessions de l'Office des mines d'or de Kilomoto Okimo. Selon le président de la société civile de l'Ituri, la commission gouvernementale chargée de la révisitation des contrats miniers n'examine que le contrat signé entre le gouvernement et deux de ces entreprises. Il s'agit d'Ashanti, Anglo-Gold, Kilo et de Mon Africa. Elle voudrait voir cette commission étendre ses examens sur Comet, qui exploite les minéraux dans les territoires du Rumu, et Sangeta, qui est basé dans la localité de Geti au sud de Bunia. Cependant, au cours de cette même session d'évaluation, les députés provinciaux ont exprimé un regret. C'est celui de voir la commission gouvernementale mise sur pied pour la révisitation des contrats miniers travailler en vase clos. Ces derniers reprochent à cette commission d'avoir effectué une mission en Ituri sans contacter ni les députés ni la société civile, encore moins les autorités politico-administratives locales. Bunia, Suzanne Zobo, Radio Kapi.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Radio Kapi.